Et ceci étant dit, allons-y ce matin aux choses sérieuses. On va continuer sur ce thème, sur cette idée d'être son propre réveil, amen, de vivre son réveil personnel. Et vivre son réveil personnel, en quelque sorte, c'est quoi? C'est d'avoir accès au meilleur de ce que Dieu a pour nous. Amen. Et parce que si on regarde ici, si on regarde un et l'autre à côté de nous, on se dit, si chacun d'entre nous ici, nous avons accès au meilleur de ce que Dieu a pour nous, nous avons accès à la plus grande joie que Dieu a pour nous, nous avons accès à la plus grande paix que Dieu a pour nous, nous avons accès à la plus grande abondance dans le sens où Dieu pourvoit à tous mes besoins selon mes besoins. Amen. Si chacun d'entre nous avons cet accès-là, nous vivons ce qu'on peut appeler, oui, un réveil où on voit les choses miraculeuses, où on voit les choses auxquelles on ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent dans nos vies. Et à ce moment-là, parce que l'Église est un corps, alors que chacun d'entre nous vivons notre réveil personnel, nous pouvons être garantis, nous pouvons être assurés, être confiants que nous allons vivre ce réveil collectif en tant qu'Église. Ce réveil collectif dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'exemples. Le monde a besoin de modèles. Comme un enfant a besoin d'un modèle pour grandir, pour savoir quelle voie emprunter. Les gens ont besoin de modèles. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de gens qui donnent toutes sortes d'images, toutes sortes de modèles différents. On regarde dans les journaux, on regarde à la télévision, on regarde les médias. Les jeunes, aujourd'hui, ont des modèles. Mais l'Église, on doit montrer un certain modèle aussi. Et contre toute attente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers les années, à travers ce qui s'est passé par l'Église de Dieu, les gens se sont fait une image de ce que c'est que l'Église. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent malheureusement qu'on peut plus se fier à l'Église, qu'on peut plus regarder l'Église pour être un modèle aujourd'hui dans notre génération. Pourquoi ça? Pourquoi? C'est parce que pendant des années, pendant des temps, les gens qui ont porté le nom de Dieu ont démontré par leurs actions, par leurs paroles, une image qui était à l'encontre de la réelle image de Dieu. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de redonner au monde, pas une nouvelle image de Dieu, la réelle image de Dieu.
Amen.
Parce que ma Bible me dit que Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il a toujours été le même. Mais comment est-ce que les gens voient Dieu à travers nous? À travers nous, à travers nos vies, à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers nos gestes, à travers notre quotidien. C'est comme ça que les gens voient Dieu. Amen. Donc, c'est important que si on veut que les gens voient Dieu à travers l'Église, justement, qui est son corps, qui est la manifestation ici sur terre de celui qui est maintenant au ciel, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Amen. On va dire ensemble, il doit y avoir quelque chose qui change. Okay. Et pourquoi il faudrait que les choses changent? Et pourquoi est-ce que ça devrait être différent? Je vais vous dire la plus grande raison pour laquelle ça devrait être différent. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nous étions morts et que maintenant nous sommes vivants. Donc, la plus grande raison pour laquelle il devrait y avoir une différence, c'est parce que vous êtes vivant. Et que les gens qui ne connaissent pas Dieu, la Bible nous dit, sont morts. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu une personne morte. Hein? Un jour, alors que je faisais une de mes nombreuses formations, j'avais fini une formation comme gardien de sécurité. Et là, j'ai appelé un hôpital et je passe une entrevue et ma première journée de travail, on fait le tour, un petit deux semaines de formation, je fais le tour de l'hôpital, le monsieur monte le tour de l'hôpital, bon, voici les endroits où tu devras te promener, surveiller, tout ça, et finalement, il m'amène à la morgue. m'amène à la morgue et moi, je dois faire le quart de nuit. Donc, il m'amène à la morgue et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il y a à surveiller à minuit à la morgue? Hein? Donc là, je me dis, OK, tout seul, 1h du matin, à l'hôpital, dans la morgue, non merci, c'est pas pour moi. Donc, j'ai pas travaillé là longtemps, OK? Mais tout ça pour vous dire que il se passait pas grand-chose à la morgue. Et justement, il se passe tellement rien que ça fait peur. C'est calme. C'est sombre. Et tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose. Mais il n'est pas supposé de se passer quelque chose. Parce qu'ils sont morts. Mais à l'église, tu es supposé de voir ça, des rires, des sourires. Tu es supposé de voir des gens chanter, d'entendre des gens chanter. Tu es supposé de voir des gens s'aimer. Tu es supposé de voir des gens à l'action. Pourquoi? Parce que nous sommes vivants. Amen. Donc, cette vie-là que le Seigneur nous a donnée, un jour ou l'autre, un moment ou un autre, doit transparaître, doit sortir de nous. Parce que sinon, on va se prendre un numéro, on va aller à la morgue. Là. Mais l'église, ce n'est pas une morgue. Loin de là. Amen. Loin de là. Les gens, lorsqu'ils viennent à l'église, les gens, lorsqu'ils entrent en contact avec un enfant de Dieu, en fait et en réalité, doivent entrer en contact avec la vie. La vie de Dieu. La vraie vie. Donc, on regarde ensemble, ce qu'on voit ensemble, c'est quoi? C'est les choses dont nous devrons, sur lesquelles nous devrons personnellement travailler dans nos vies. Modeler dans nos vies pour pouvoir accéder à ce que Dieu a promis pour nous. Parce que si on regarde dans la Bible avec l'histoire du peuple d'Israël, il y a des choses que Dieu avait promis. Dieu n'avait pas changé sa promesse. Dieu les avait promis. Dieu non seulement avait promis, mais avait préparé ces choses d'avance-là pour eux. Mais pour différentes raisons, ils n'ont pas pu accéder à cette promesse-là. Donc, il y a des choses dans nos vies auxquelles Dieu nous appelle, que Dieu nous promet, que Dieu a déjà préparé, mais que s'il y a des actions que nous ne posons pas intentionnellement dans nos vies, nous allons passer à côté de ces promesses-là. Et nous n'aurons personne d'autre à blâmer, pas notre voisin, pas notre mère, pas notre sœur, pas notre frère, parce qu'il ne nous a pas donné assez d'amour, notre père ou ci ou ça, non. Ça sera de notre responsabilité. Parce qu'ici, ici, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour accéder aux promesses de Dieu dans nos vies. Amen. Donc, une autre chose ce matin que nous allons voir, un autre trait de caractère que nous allons voir, que nous devrons bâtir en nous. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que des fois, on veut, on prêche, et en tant qu'enfant de Dieu, on cherche, on parle de réveil, donc en parlant de réveil, on cherche le surnaturel, on cherche ce qui frappe les yeux, ce qui tape à l'œil, on cherche les choses extraordinaires, hors du commun. Et mes amis, ils vont en avoir de ça. Mais lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu les qualificatifs, les exhortations, lorsqu'on cherche les hommes, les femmes de Dieu pour prêcher, pour enseigner la parole, très peu de ces qualificatifs-là font référence à des choses extérieures, font référence à des qualités extérieures, des pouvoirs ou de quoi que ce soit. Non, la majorité, la grande majorité de ces qualificatifs, de ces caractères, de ces critères, justement, font référence au caractère de quelqu'un. Et un caractère, mes amis, ça se forge, ça se bâtit. À travers les expériences, à travers les décisions que tu prends, un caractère, ça se bâtit. Et quand tu bâtis quelque chose, c'est parce que tu prends une décision de bâtir quelque chose. Il n'y a personne qui bâtit ton caractère à ta place. Il y a des événements qui vont influencer ton caractère. Mais qu'est-ce qui explique que deux personnes peuvent vivre la même expérience, mais que les deux vont forger à travers de cette expérience-là un caractère différent? Oui, il y a la personnalité de la personne, oui, mais il y a quoi? Il y a une question de décision aussi. Et un trait de caractère que nous devrons développer dans nos vies personnelles, que je veux voir avec vous ce matin, c'est l'humilité. L'humilité. J'ai regardé, j'ai cherché un peu dans différents dictionnaires, sur l'Internet et tout ça, la définition de l'humilité. Et c'est assez intéressant, toutes les définitions contradictoires que l'on trouve lorsqu'on cherche la définition de l'humilité. Et mais à travers la lecture de ces définitions-là, j'ai compris pourquoi c'était si difficile aujourd'hui pour les gens de marcher dans l'humilité. Parce que je crois qu'on ne réalise et on ne comprend pas nécessairement ce que c'est que l'humilité. Une des définitions, sur lesquelles je suis tombé, est celle-ci. Donc, définition de l'humilité, c'est quoi? C'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et est porté à rabaisser ses propres mérites. J'ai lu ça et je me suis dit, OK, voilà. Si les gens vivent leur vie avec cette définition-là de l'humilité, voilà, c'est normal. C'est normal qu'il y ait autant de problèmes. C'est normal que c'est difficile de, comme on va voir, de s'abaisser. Mais je peux vous dire tout de suite, ce n'est pas ça l'humilité. Hein? On va voir ensemble, on va détailler ensemble. Mais je peux vous dire tout de suite, d'entrée de jeu, que ce que je viens de lire là, ce n'est pas du tout la définition de l'humilité. Si on veut savoir ce que c'est que réellement l'humilité, on va se tourner vers la parole de Dieu. On va se tourner vers la parole de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné un exemple suprême d'humilité. Et à go, vous allez me dire c'est qui? Un, deux, trois, go. Wow! 1, 2, 3, go!
Jésus!
Amen. Jésus nous a donné cet exemple suprême d'humilité. Qu'est-ce que nous dit la parole à propos de l'humilité? Proverbe 18, verset 12. Et encore une fois, c'est l'humilité est quelque chose sur laquelle on peut trouver énormément de versets. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. 1 Pierre 5, verset 5. Nous dit aussi, 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, dans vos rapports les uns avec les autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité précède la gloire. On ne parle pas nécessairement. Oui, on parle de la gloire de Dieu. Mais savez-vous qu'on peut avoir des vies glorieuses? Hein? Savez-vous que vous pouvez avoir une vie glorieuse? Une vie justement qui démontre la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, ça a toujours été le désir de Dieu. De se mettre un peuple à part, pour qu'à travers ce peuple-là, Dieu démontre sa gloire. Pour que les autres peuples qui vénèrent leur propre Dieu, mais qui vivent dans les problèmes, qu'il n'y a rien qui fonctionne, regardent ce peuple qui serve l'Éternel, le Dieu, et se disent, il y a quelque chose avec ce peuple-là qui ne se passe pas avec notre Dieu à nous. Et qu'à travers la gloire de Dieu dans son peuple, les autres peuples soient attirés vers, pas ce peuple-là, vers Dieu. Donc oui, nous pouvons avoir des vies glorieuses. C'est le rôle qu'a l'Église aujourd'hui. Que lorsque les gens regardent de l'extérieur à l'église, ils ne voient pas seulement des gens qui s'en vont parce que c'est dimanche avec leur Bible et c'est ça la religion, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah oui, eux, dans leur religion. Il faut qu'ils voient quelque chose de différent. Ils doivent voir, ils doivent voir, ils doivent voir absolument quelque chose de différent. Si ce n'est pas différent, pourquoi est-ce que j'en voudrais? Amen. Si vous utilisez quelque chose chez vous, par exemple, mesdames, si vous utilisez un shampoing et quelqu'un vous parle d'un autre shampoing qui n'est pas meilleur que celui que vous utilisez depuis des années, et que vous aimez déjà, pourquoi est-ce que vous allez changer de shampoing? N'est-ce pas? Vous allez peut-être l'essayer. Hein? Vous allez peut-être l'essayer. Mais quand vous allez réaliser qu'il ne donne pas des meilleurs résultats que votre shampoing, vous allez faire quoi? Vous allez retourner à votre ancien shampoing. C'est la même chose avec les gens dehors. Ils peuvent l'essayer. Ils peuvent venir à l'église. Quand je dis venir à l'église, là, c'est quoi? C'est pas juste entre les quatre murs. C'est venir entourer des enfants de Dieu, là, des chrétiens. Mais s'ils réalisent qu'ils trouvent les mêmes choses dehors, hey, je vais rester dehors et je vais dormir dimanche matin. C'est ça qu'ils vont se dire. Hein? Vous êtes là ce matin?
Oui.
Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Hein, on a parlé de Jésus, on a parlé de Jésus comme notre exemple suprême d'humilité. Et il n'y a pas un passage, à mon humble avis, justement, qui l'exprime mieux que Philippiens chapitre 2. Et justement, à travers ce passage-là, nous allons regarder ensemble certains caractéristiques. Je recule. Certaines caractéristiques, pardon, de l'humilité. Amen. Donc, on va lire ensemble Philippiens 2 à partir du verset 5, 5 à 11. Donc, Philippiens 2, 5, 11. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement quoi? Élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, à travers ce passage-là, qu'est-ce qu'on peut retirer? Une des premières choses qu'on peut retirer, c'est quoi? C'est que l'humilité, c'est qui il est. En d'autres termes, l'humilité connaît son identité. Que si nous voulons marcher dans l'humilité, eh bien, l'humilité est solidement ancrée dans qui nous sommes. L'humilité est solidement ancrée dans notre identité avec Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui sait qui il est, qui est capable d'avoir une juste image de qui il est capable d'être humble. J'ai lu également, en faisant mes recherches, c'est écrit ceci, l'humilité est à distinguer, hein, il faut distinguer l'humilité de la fausse modestie. La fausse modestie, feint l'humilité afin d'avoir parfois encore plus de compliments. N'est-ce pas? Mais l'humilité consiste, sans méconnaître ses qualités, à admettre que l'on y est, en fin de compte, pas forcément soi-même pour grand-chose. Hein? L'humilité, c'est qui il est? Parce que Jésus, ici, ce qu'on vient de lire, c'est quoi? Au verset 6, c'est lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal de Dieu. Jésus savait très bien qui il était. Donc, parce qu'il savait qui il était, sa réponse n'a pas été Moi, un Dieu, tu me demandes de m'abaisser au niveau d'un homme. Il savait qu'il était Dieu. Et cette fausse modestie, des fois, qu'est-ce que ça fait? C'est que, et surtout, je remarque dans le milieu chrétien, des fois, parce qu'on veut absolument que toute gloire revienne à Dieu, hein, on ne peut plus dire merci à quelqu'un qui nous donne un compliment. On ne peut plus rien prendre pour nous. Est-ce que tu as le droit d'être fier de toi? Est-ce que tu as le droit d'être fier de quelque chose que tu as accompli? Est-ce que c'est orgueilleux d'être fier de soi? Et je vais vous poser une autre question pour vous aider à mieux répondre. Est-ce que vous avez déjà dit à quelqu'un « je suis fier de toi »? Est-ce que c'était mal, comme vous l'avez dit? Alors, pourquoi est-ce que ça serait mal pour vous de vous dire « je suis fier de moi aussi »? Parce que quand tu sais qui tu es réellement, quand tu dis que tu es fier de toi, tu n'es pas en train de t'élever, là. Hein? Parce que je veux dire que quand il y a quelque chose qui est brisé chez moi, à la maison, et qu'avec mes 10% de talent manuel, je décide de m'attaquer à cette œuvre, et que je m'en vais chercher des conseils au magasin, et que je reviens chez nous et que je me dis, ça y est, j'y vais, j'attaque. Je peux vous dire que quand j'ai réussi, je suis fier de moi. Même si au magasin, le gars m'avait dit, ça va te prendre, c'est facile, ça va te prendre 15 minutes et que ça m'a pris 3 heures, je suis quand même fier de moi. Et je recule, j'admire mon œuvre et je fais, ouais. Hein? S'il y a des messieurs qui se reconnaissent ici. Vraiment? Et femmes aussi, je crois. Si quelqu'un dit que tu es belle, est-ce que tu as le droit de te dire toi-même que tu es belle? Est-ce que c'est d'être orgueilleux? Ça, c'est la fausse humilité. Ah, t'es jolie. Ah, oh, non, tu sais, oh, regarde, tout. Ah, c'est donc bien beau ce que tu portes aujourd'hui. Ah, mais c'est vieux, ça, là. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est quand même beau, là. C'est la fausse humilité. Encore une fois, la vraie humilité. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Mais je sais ce que je vaux surtout dans les yeux du Seigneur. Donc, quand les gens disent que je me promène avec arrogance, moi je veux dire je me promène avec assurance. Quand les gens vont dire, hey, prends ta place, laisse-toi pas faire comme ça, je vais dire, non, je décide de marcher dans l'amour puis ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Si Jésus n'avait pas su qui il était. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu es, okay, ça y arrive quoi? Quand tu t'abaisses, tu as automatiquement le sentiment de perdre quelque chose. Si pour toi, c'est toute ta vie d'être ici, le jour où on te demande d'être là, tu as le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Tu as le sentiment de ne plus être la personne que tu dois être, que tu peux être, que tu mérites d'être. Mais Jésus dit que je sois ici ou que je sois ici, je suis quand même le Fils de Dieu. Mais si pour un temps j'ai besoin de m'abaisser, je vais le faire avec plaisir. Parce qu'il faut se rappeler que ça a été quoi? Ça a été son choix. Ça a été son choix. Donc, non seulement l'humilité sait qui il est, ou bien l'humilité connaît son identité, mais également l'humilité, donc, regarde les autres comme plus importants que lui-même. C'est la parole qui nous dit ça. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Encore une fois, ça va avec le numéro 1. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu n'as pas confiance, si tu n'as pas d'assurance en toi, automatiquement, quand tu t'abaisses, tout ce que tu vois, c'est quoi? C'est que les autres sont au-dessus de toi maintenant. Hein? Mais chose intéressante encore que j'ai lue, qui nous dit, l'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres. Il a simplement cessé de se croire supérieur. L'homme humble ne se croit pas inférieur aux autres. Il a cessé de se croire supérieur. Quand Jésus s'est abaissé, il s'est librement abaissé. Il a pris le choix de s'abaisser. Et en s'abaissant, il n'a pas dit, ah, là, tous les autres sont à mon niveau maintenant, et même il y en a qui sont supérieurs à moi. Non. Il a pris une position où, dans cette position-là, il était plus à même de voir les besoins et d'accourir et d'aider aux besoins des gens. Amen. Il devait prendre cette position-là. Il devait prendre cette position-là pour pouvoir nous aider, pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire. Amen. Parce que, on a dit plutôt, hein, l'humilité précède la gloire. Okay? Mais qu'est-ce que l'orgueil fait de l'autre côté? L'orgueil essaie de s'élever. Si tu n'es pas capable de t'abaisser, c'est rarement parce que tu veux simplement garder ta position. OK? Suivez-moi là. Si tu es incapable de t'abaisser, ce n'est rarement parce que tu veux conserver ta position. Non. Souvent, si tu n'es pas capable de t'abaisser, c'est parce que dans ton cœur, tu désires être encore plus haut. C'est que tu désires t'élever. Et si on regarde les deux côtés, l'humilité, la gloire, l'orgueil, on regarde quoi? On regarde, oh, ce qui s'est passé avec Satan. Pourquoi est-ce qu'il a été abaissé? Parce qu'il a essayé de s'élever au-dessus de Dieu. Mais alors que Jésus s'est abaissé, il a été élevé. Pourquoi est-ce qu'on a la difficulté à s'abaisser puis à voir les gens autour de nous comme plus élevés que nous-mêmes? C'est parce que des fois, comme au numéro un, on est insécure en qui nous sommes. Et de deux, parce que nous sommes insécures en qui nous sommes, nous aimerions être plus élevés. Donc, si mon cœur cherche à être élevé, oublie ça, m'abaisser. Hein? Vous êtes silencieux, mais je vais prendre ça pour un amen. Hein? C'est sérieux, là. Je vous dis, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut forger le caractère. Parce que t'es beau être appelé aux plus grandes choses dans ta vie, mais si tu n'as pas le caractère qui va avec, tôt ou tard, tu vas tomber. Tôt ou tard, tu vas tomber. Et l'humilité, c'est un des plus grands traits de caractère à développer. Pourquoi? Parce que Jésus, en marchant avec ses disciples, ça a été une majeure partie de ce qu'il a modelé, l'humilité. Amen. C'est justement le prochain point qu'on va voir. L'humilité cherche quoi? À servir avant d'être servi. L'humilité cherche à servir avant d'être servi. Donc, tous ces points-là vont en ordre parce que je sais qui je suis capable de m'abaisser pour regarder les besoins des gens et je suis capable d'être là en position de quelqu'un qui veut servir plutôt que de quelqu'un qui veut recevoir. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il a décidé lui-même de devenir serviteur. Et il dit quelque chose d'intéressant à ses disciples en Luc 22, en Luc chapitre 22, versets 24 à 27. Luc 22, 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Est-ce que vous entrez quelque part? Avec cette mentalité de « les gens me doivent quelque chose hein? ». Avec tout ce que j'ai fait, je mérite au moins 100. On t'invite quelque part, tu t'attends à ce que ça soit placé au moins d'une certaine façon avant que tu arrives. Ou bien quand tu arrives quelque part et que c'est pas prêt, mais c'est toi qui es invité, c'est pas prêt. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois que c'est pas prêt. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Ou comment ça, c'est pas prêt? Ils ne savaient pas que j'arrivais à cette heure-là? Hein? Jésus, là. Jésus, un jour, a fait quelque chose que ses disciples n'ont pas saisi sur le coup. Il a pris un contenant, un vase, avec de l'eau, et il a lavé les pieds de ses disciples. Et ses disciples, hein, respectueux, des gens qui connaissent l'honneur, c'est mon maître, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas à toi de me laver les pieds, c'est à nous de te laver les pieds. Il a dit non, 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 non. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire là. Mais je suis en train de vous montrer un exemple à suivre. Vous savez, à l'époque, les gens se promenaient. Hein? On voit dans la parole, les disciples ont marché, 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 marché. Et écoute, il y avait du sable, il y avait de la terre par terre et les gens se promenaient en sandales. Donc, les pieds étaient sales. Très sales. Et oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive lorsque tu rentres dans une maison et que tes pieds sont tout sales? Hein? Des fois, nous-mêmes, on dit, écoute, oh, est-ce que tu peux enlever tes souliers, s'il te plaît? Donc, on met gentiment nos souliers sur le tapis et tout, mais écoute, ça se passait pas comme ça à l'époque, là. C'est que pour honorer justement la personne qui entre dans ta maison, qui a les pieds tout sales, qu'est-ce que tu fais? Tu lui laves les pieds. Et normalement, cette tâche-là était la tâche de qui? C'était la tâche de l'esclave dans la maison, du serviteur de la maison. Donc l'esclave, le serviteur de la maison, un de ses mandats, c'est quand il y a des voyageurs, quand il y a un invité à la maison, tu arrives à la porte et tu lui laves les pieds. Et c'est Jésus qui a fait ça pour ses disciples. Jésus est pas arrivé et dit, « Hey Pierre, je suis fatigué. Ah, Pierre, je suis fatigué, là. Jean. Hein? Est-ce que quelqu'un qui veut me masser les pieds, quelqu'un qui veut me laver les pieds, s'il vous plaît? » Non. Il a dit, « Assoyez-vous. » Assoyez-vous, les gars. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer un exemple à suivre. Je vais vous montrer un trait de caractère que non seulement vous devrez développer, mais que vous devrez garder le reste de votre vie et que vous devrez enseigner aux autres aussi. Que si tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de te battre pour rechercher la reconnaissance des autres. Mais tu peux maintenant te mettre en position à regarder quel est le besoin des autres. Parce que s'il faut que tu te battes constamment pour garder ta position, tu n'es pas dans un mode recherche de besoins autour de moi. Tu es dans un mode de recherche de besoins pour moi. Mais parce que je marche avec assurance, je peux regarder mon voisin et je peux dire, aime ton prochain comme toi-même. Comme j'ai déjà dit, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à aimer notre prochain comme soi-même? C'est parce qu'on a de la difficulté à s'aimer soi-même comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, c'est j'aime mon prochain si ce que mon prochain me donne en retour fait mon affaire. Si tu donnes un cadeau à quelqu'un, il t'envoie promener, qu'est-ce que tu fais? Si j'avais su, je ne lui aurais jamais donné. Mais si tu sais que même s'il t'envoie promener, ça lui fait vraiment du bien puis c'est vraiment ça qu'il avait besoin. La prochaine fois, tu te débrouilleras tout seul. L'amour n'attend rien en retour. Le vrai, réel, simple, pur amour n'attend rien en retour. C'est ça la vraie vie chrétienne, là. OK? C'est ces choses-là, parce que c'est si silencieux, je le sais, parce que ça nous confronte tous dans nos vies. Mais parlons des choses, justement, qui nous confrontent tous dans nos vies, que nous avons tous besoin de travailler dans nos vies. Parce que nous sommes tous, oh, je m'excuse, je me suis, hein, je ne veux pas vous impliquer là-dedans, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais je me suis, oui, trouvé dans des situations où non, je n'ai pas marché dans l'humilité. Hein? Mais est-ce qu'à cause de ça, lorsque je lis la parole, je vais me cacher, je vais me mettre la tête sous le sable? Non. Je dis, pardonne-moi, Seigneur, et enseigne-moi comment marcher dans l'humilité. Et c'est ça la marche chrétienne. C'est que lorsqu'on entend la parole, au lieu de se condamner, on se dit, oh, ah oui, c'est vrai, ok, peut-être c'est moi. Ok, pardon, Seigneur. C'est ce qu'on a dit, c'est comme ça qu'on bâtit le caractère. Comment est-ce que tu bâtis ton caractère si à chaque fois que tu entends la parole de Dieu et qu'il y a quelque chose qui te donne la conviction dans ta vie que tu n'es pas en train de marcher conformément à la parole de Dieu, mais à chaque fois que tu entends ça, tu trouves des excuses. Oui, mais c'est à cause que, tu sais, ça forge ton caractère. Ça forge un caractère rebelle et orgueilleux. Et ce qu'on vient de lire, c'est quoi? Ah oui, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Tu as l'impression que tu résistes à la parole, tu as l'intention que tu tiens ton bout, tu résistes, mais la réalité, ce n'est pas toi qui résistes, c'est Dieu qui te résiste. Résister, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux m'en aller dans une direction, il y a quelque chose qui me retient. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que s'il y a des choses dans ta vie que tu ne vois pas arriver, comme tu pensais qu'il devrait arriver. Il y a peut-être une résistance due à un certain caractère. Je dis peut-être. Pourquoi? Parce que je ne connais pas vos vies individuelles. Hein? Comme on dit, si le chapeau te fait, mets-le. Mais en réalité, si le chapeau te fait, enlève-le. Hein? Parce que tu ne veux pas le garder, là. Tu ne veux pas garder le chapeau de l'orgueil. Tu n'as pas gardé le chapeau de la rébellion. Hein? Enlève-le. Et regarde ton voisin, dis à ton voisin, enlève-le. regarde ton voisin, dis, enlève-le toi-même. Ah, c'est ça que vous voulez dire, hein? Je sais, c'est ça que vous aviez envie de dire. Je sais. Hein? L'humilité ne cherche pas sa propre volonté. Dernier point. L'humilité ne cherche pas sa propre volonté. Ayant paru comme un simple homme, donc je lis un verset là, qu'on a lu ensemble en Philippiens 2, ça c'est le verset 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix, même jusqu'à la mort de la croix. Et on va lire un autre verset avant de commenter là-dessus, Matthieu 26, 42, qui va de pair avec ça, en fait, où on voit Jésus hein, dans le jardin quelque temps avant d'aller, justement, à la croix. Matthieu 26, verset 42, pardon. « Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ne cherche pas sa propre volonté. Des fois, on prend ce passage-là, OK? Pas que c'est mauvais ou c'est en soi, mais on prend ce passage-là des fois quand on ne sait pas nécessairement comment prier, hein, quelle est la volonté de Dieu, puis on dit, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est pas mauvais en soi. Mais si on regarde plus profondément ce passage-là, c'est que la réalité, c'est quoi? C'est que Jésus ici savait très bien quelle était la volonté du Père. Il n'était pas en train de prier, « Seigneur, est-ce que je dois déménager dans telle ville ou dans l'autre ville? J'aimerais bien aller là, mais je ne sais pas que ta volonté soit faite. » Comme je vous dis, il n'y a rien de mal à prier comme ça. Mais ce n'est pas ça qu'il fait ici. Il est en train de se soumettre lui-même à la volonté de Dieu qu'il connaît très bien. Il est en train de dire, je sais très bien ce que tu attends de moi. Et honnêtement, ça va me prendre pour obéir. Mais, non pas ma volonté, mais ta volonté. Combien de fois, malheureusement, je rencontre des gens qui savent très bien qu'est-ce que la parole de Dieu leur dit de faire dans la situation qu'ils sont en train de vivre. C'est non seulement il prie, oh, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais c'est plutôt donne-moi une autre coupe. Et si le Seigneur ne leur donne pas une autre coupe, ils vont aller en chercher une eux-mêmes. Combien de fois les gens connaissent la volonté de Dieu dans leur situation? Et non seulement ils la connaissent parce que la parole est claire, mais je vous le dis, des fois, les gens la verbalisent eux-mêmes de leur bouche devant moi, ils me le disent. Je sais que la parole de Dieu dit ci, je sais que la parole de Dieu dit ça, mais... Quand le mais arrive, moi, je me recule. Je t'exhorte. Je te pointe vers la parole. Je te pointe, en fait, vers ce que tu sais très bien que la parole dit toi-même. Alors que tu me dis maintenant le mais. Okay. C'est ça que ça veut dire, ce passage-là. Okay? C'est exactement ça que ça veut dire. C'est que je sais, Seigneur, ce que tu me demandes de faire, j'ai pas envie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous saviez que le Seigneur demandait de vous, mais que ça ne vous tentait pas? Je vais être le premier à lever ma main. OK? Mais l'humilité et l'obéissance, C'est comme on disait l'autre fois, hein? La foi, c'est pas quand tout va bien. Non? C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien. C'est facile d'être obéissant quand ce que tu me demandes, c'est ce que je veux. C'est facile d'être humble quand à chaque fois tu me dis, « Hey, prends une autre marche, prends une autre marche, prends une autre marche. » Ah oui, vraiment? Oh. Mais le jour où je te demande de descendre d'une marche, Peux-tu en descendre une autre, s'il te plaît? Pourquoi? Hein? Et on pense que ça, c'est correct. Je suis descendu. Attitude... Hein? Prépubère, ado. OK! T'es content, là? Je l'ai fait, voilà. C'est facile d'être humble quand ça va toujours dans notre sens. C'est facile d'être humble quand ça va toujours dans le sens de ce qu'on veut. Et quand ça nous demande, quand ça nous coûte, quand ça nous demande des sacrifices, quand ça nous demande de faire des choses qu'on n'a juste pas envie de faire. C'est là la vraie obéissance. C'est là la vraie soumission et c'est là la vraie humilité. Mais encore une fois, on recule, ça revient au numéro un. Si tu as de la difficulté avec qui tu es, le peu de sécurité que tu as envers toi-même, tu veux le garder. Donc, quand on te demande de faire quelque chose contre ta volonté, tu t'accroches au peu d'assurance que tu as de toi-même. Pourquoi? Parce que si je lâche ça, là, oublie ça, non seulement avant, je ne savais pas nécessairement qui j'étais, je n'étais pas nécessairement confiant en qui je suis, mais maintenant, tu me demandes de lâcher le peu que je crois être sécure de. Mais il faut comprendre qui vous le demande. Comprendre qui vous le demande. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vous demande quelque chose, de dire non, et d'avoir quelqu'un d'autre qui vous demande la même chose, de dire oui? OK, je vais être encore une fois le premier à lever ma main. Pourquoi? Parce que quelque part, tout dépendamment de la chose qui vous est demandée, quelque part, il y a une personne des deux à qui vous faites le plus confiance. Il y a ce lien peut-être, il y a peut-être cette relation, il y a quelque chose qui fait en sorte que... Mais pareillement, vous devez savoir qui vous demande. Vous devez connaître qui vous demande de lâcher prise. Vous devez... Écoute, quand tu marches, tu t'apprêtes à marcher, à être crucifié, tu dois absolument connaître qui te demande d'aller à la croix. Parce que tu dois connaître et savoir, hors de tout doute, que cette personne-là est fidèle, digne de parole, plus que capable pour te sortir de quoi que ce soit. Et non seulement ça, mais tu dois connaître, savoir, hors de tout doute, que cette personne-là est bonne. Et on va dire ensemble ce matin, Dieu est bon.
Dieu est bon.
Donc, sa volonté est toujours bonne. Dieu n'est pas capable de bien. Dieu n'est pas quelqu'un capable de faire de bonnes choses. Dieu, à l'occasion, ce n'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de bonnes actions. Non, 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 non. Il est toujours bon. C'est ce qu'il est, c'est qui il est, c'est sa nature. Donc, ce qu'il parle est bon, ce qu'il dit est bon, ce qu'il fait est bon. Sans exception. Donc, la prochaine fois, vous allez être confronté avec ça. La prochaine fois, vous allez être confronté dans votre cœur à « Je sais que la Bible dit si, mais... » Faites comme Jésus. Humiliez-vous. Soumettez-vous à sa volonté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir la certitude, la certitude, la certitude, la certitude, la certitude que ce qui va sortir l'autre côté de ça va être bon. On n'a tellement pas de perdre. On a tellement travaillé fort pour être qui nous sommes devenus. N'est-ce pas? J'ai passé à travers tellement de choses dans ma vie pour être qui je suis devenu aujourd'hui. Ma vie a été tellement difficile, tu n'as aucune idée comment j'ai ramé pour être rendu là où je suis aujourd'hui. Donc, on garde ce qu'on a fait en pensant qu'en fait, c'est maintenant qui nous sommes. Mais ce n'est pas qui nous sommes. OK? Et dernièrement, je reçois un courriel d'une fille avec, écoute, quand j'étais au primaire, on habitait sur la même rue. Et là, on jouait dehors avec sa sœur. Et la fille, qui est maintenant chrétienne, est allée sur enseigne-moi.com et a vu un des enseignements sur enseigne-moi. Elle s'est dit, wow! Elle m'écrit, elle dit, écoute, Ken Mafou, est-ce que c'est le Ken Mafou qui a habité sur la rue Untel, à Saint-Hyacinthe? J'ai dit, écoute, oui, je m'appelle Ken Mafou. J'ai habité à Saint-Hyacinthe. Donc, les probabilités sont assez élevées que ça soit bien moi. Mais ce qu'elle me dit, c'est comme, wow! Aujourd'hui, tu es pasteur. Je ne peux pas croire que tu es pasteur. Et finalement, elle écrit blablabla. Et il y a une phrase qui dit, gloire à Dieu, tu n'as vraiment pas eu une vie facile. Et j'arrête de lire, je me dis. Et j'essaie de reculer. Je me dis. Je pense à des événements, je pense à ci, je pense à ça. Mais aujourd'hui, en toute honnêteté, c'est pas comme ça que je qualifierais ma vie. Même si ça m'a pris quelque temps pour réfléchir et me dire finalement, ah oui, c'est vrai, ah oui, elle a raison, ah oui, ok, oui, il y a eu ça, elle a sûrement, c'est vrai, elle a connu ça, nanana, oui, c'était pas facile à ce moment-là chez nous. Et ça m'a pris du temps pour reculer, déterrer et tout. Pourquoi? Parce que c'est pas qui je suis aujourd'hui. Ce n'est plus qui je suis. Ce n'est pas quelque chose que ça m'a pris toutes mes forces, toutes mes énergies, me sortir de là. Donc, il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit pour me faire retourner là. Non. C'est une bataille qui a été gagnée. Gloire à Dieu, il m'a lui-même sorti de là. Et maintenant, quand je regarde en arrière dans ma vie, non, ça n'a pas toujours été facile. Mais qui ici, ça a toujours été facile dans sa vie? Hein, rendu là, comme j'ai dit un jour, on va venir ici, chacun notre tour, on va faire notre témoignage, puis à la fin, on va voter celui qui fait plus pitié, là. Non, mais sérieusement, et c'est pas pour minimiser les choses que vous avez vécues dans vos vies, là, loin de là, ok, je veux pas manquer de respect à ça, là. Ok, loin de là, c'est pas ça. C'est que moi, quand 2 Corinthiens 5, 17 me dit que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées, c'est que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. OK, je peux essayer de l'expliquer autrement, mais je suis en Christ et maintenant je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc même si tu me réécris, me dis gloire à Dieu parce que tu n'as vraiment pas eu une vie facile, je vais te dire, ah, ben écoute, merci que tu rendes gloire à Dieu, mais aujourd'hui, c'est plus qui je suis, ce n'est pas ce qui m'identifie, les choses que j'ai traversées dans ma vie, non, ce qui m'identifie c'est Jésus-Christ. Appelez l'équipe de louange, si vous voulez bien. Il faut obéir. Hein? J'ai obéi. Et l'histoire avec l'humilité, c'est quoi? C'est que l'humilité, à quelque part, n'a pas peur. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'humilité n'a pas peur de donner. Parce que souvent dans la vie, on a peur de donner, parce qu'on a peur que qu'est-ce qu'on va recevoir en retour ne sera pas proportionnel à ce qu'on va avoir donné. On a de la difficulté à être humble dans notre mariage, parce qu'il s'est passé des choses avant, et qu'aujourd'hui je suis comme ça maintenant, et ce que j'ai réussi à gagner, je vais le garder. Et oui, je t'aime, mais je me suis promis qu'il n'y a plus jamais un homme qui allait me faire vivre ça. Oui, je t'aime, mais je me suis promis qu'il n'y a plus aucune femme qui me dirait ça. Je sais que c'est des situations réelles. Hein? Mais c'est des situations réelles que nous avons besoin de lâcher prise de. Parce que si tu entames ta relation comme ça, je me suis promis qu'il n'y a plus jamais personne qui va me faire du mal. Il n'y a plus jamais personne qui va me dire ci. Il n'y a plus jamais personne qui va me faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets ton radar sur autre chose. Alors que ton radar devrait être réglé sur détecter les besoins des gens autour de toi, aimer les gens autour de toi. Ton radar est focusé sur détecter la trahison autour de toi. Oh. Okay. Détecter l'abus autour de toi. Attention, trop gentil, il va se passer quelque chose bientôt. Trop gentil, c'est pas normal. Attention, oui, tu te rappelles la dernière fois que quelqu'un t'a dit ça? Oui, c'était beau, hein? Tu y as cru, tu te rappelles ce qui s'est passé. Donc, on se trouve dans des situations maintenant où on veut plus croire. Où on veut croire, mais on veut croire, mais on dirait qu'on se retrouve même dans l'incapacité de croire. Ah, c'est déchirant cette position-là, hein? Où tu veux croire de tout ton cœur, mais tu es incapable de croire. Tu veux que cette relation-là fonctionne, mais tu es incapable de croire qu'elle va fonctionner. Waouh, c'est déchirant. Et malheureusement, combien de gens vivent comme ça? Je veux croire que mon prochain emploi va être le bon, mais j'ai tellement été déçu avant. Je veux croire que ma prochaine union va être la bonne, mais avant, tu n'as pas idée de ce qui s'est passé. Je veux croire que la situation peut changer, mais tu n'as pas idée de ce qui... Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se bâtit un monde, on se bâtit une identité, on se bâtit quelque chose basé sur des choses, peu importe basé sur lesquelles, mais nous, on sait sur quoi c'est basé, donc on est capable de sentir plus ou moins solide dessus. Et qu'il n'y a personne qui vienne oser m'ébranler sur ma soi-disante identité que je me suis créée maintenant. Et là, le Seigneur vient et me dit, abaisse-toi. De quoi abaisse-moi? Je me suis fait abuser toute ma vie. Les gens ont profité de moi toute ma vie. Maintenant que je commence à me relever et à m'en sortir, tu me dis, abaisse-toi. Et tant que je pense à moi un petit peu, non? Et Jésus répond à ça, abaisse-toi. Abaisse-toi. Avec moi. Avec lui. Parce que c'est lui qui te garde. C'est lui qui t'entoure. C'est lui qui vient te consoler. C'est pas les autres. C'est lui. Alors quand tu vas être abaissé et que tu vas être en train de te dire, je savais, j'aurais pas dû, je voulais faire confiance, il va te dire, calme-toi. Je suis encore avec toi, là. Qu'est-ce qui a changé autour de toi? Rien. Il n'y a rien qui a changé autour de toi parce que moi, je suis encore avec toi et moi, je ne change pas. Patience. Et le jour viendra où moi-même, je vais t'élever. Où moi-même, je vais relever ta situation. Oh. Si on pouvait faire confiance à notre papa un peu plus, non? S'humilier, là. La Bible nous parle de s'humilier, hein? Mais nous, dans le monde, le message, c'est quoi? C'est d'être humilié. Comment? J'ai été humilié. Je me suis fait humilier. C'est toujours une réaction de quelque chose que les autres ont fait. Mais la Bible nous parle de non, nous parle de s'humilier. De toi-même. Et l'humilité, je me suis fait humilier dont le monde parle. C'est pas du tout cette humilité-là dont la Bible nous parle. Là. Je me suis fait humilier, c'est quoi, là? C'est justement ça. Tu t'es fait donner ce que tu pensais que tu méritais pas. Moi, je me suis fait humilier. Tu ne peux pas te faire humilier si tu sais qui tu es. Si tu es ancré dans qui tu es. Mais tu peux t'humilier, décider de t'abaisser, de te soumettre. Tu veux connaître la gloire dans ta vie personnelle? Tu veux connaître la gloire dans tes projets? Eh bien, l'humilité précède la gloire. Et ce matin, en terminant, je vais vous demander justement à certaines personnes d'entre vous de vous humilier. S'humilier, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire reconnaître. Reconnaître que Jésus est Seigneur, là. Reconnaître qu'il y a un seul Dieu, un seul maître dans ma vie, c'est Jésus. De reconnaître qu'il est mort pour vous sur la croix, justement, comme on a lu. Hein? Il a pris la décision d'aller lui-même sur la croix pour vous. Pour que vous n'ayez plus à vivre ces choses-là par vous-même, puis que le jour où tout bombarde de tous les côtés, vous pouvez garder votre paix sur le rocher qui est Jésus-Christ, qui est lui-même avec vous, et dit, je suis avec toi, jamais je te délaisserai, jamais je ne t'abandonnerai. Et tant aussi longtemps que ton identité sera ancrée, forgée en moi, tu n'auras rien à craindre. Mais pour ça, déjà, il faut s'humilier et l'accepter comme son Seigneur, comme son Sauveur. Déjà, il faut s'humilier, il faut dire oui. Il faut dire oui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Oui, Seigneur, je veux vivre avec toi. Donc, ce matin, je lance cet appel à ceux d'entre vous qui sont ici peut-être ce matin et que vous n'avez jamais fait le premier pas, le vrai premier pas de dire, Seigneur, je veux que tu règnes sur ma vie. Là. Je veux que tu règnes sur ma vie. J'arrête de penser que je suis le maître de ma vie. Hein? S'humilier, ça veut dire d'arrêter de penser que c'est toi le maître de ta vie, que tu contrôles ta vie. Si tu veux rester le maître de ta vie, mais continue à contrôler toi-même ta vie et vois où est-ce que ça va t'emmener. Mais ce matin, c'est le temps de s'humilier et de dire, Seigneur, c'est toi le maître de ma vie. Parce que la réalité, c'est que c'est lui qui a créé les projets, c'est lui qui vous a créé. Et le jour où vous remettez votre vie entre ses mains, il vous guide dans cette direction-là. Donc, très simple ce matin, Très, très simple, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, si c'est vous, si vous voulez vous humilier et dire, oui, Seigneur, je te redonne ma vie ce matin pour la première fois, ou je te la redonne pour une autre fois, hein, dans le sens que peut-être que vous l'avez repris, peut-être que vous vous êtes éloigné de lui, et qu'aujourd'hui, vous voulez dire, je te demande pardon, Seigneur, et je reviens à 100% pour toi, entre tes mains. Donc, à 3, si c'est vous, dans un de ces cas, je vais vous demander juste de lever la main. Amen. On va s'unir ensemble, on va s'accorder ensemble pour prier ensemble ce matin. Donc, 1, 2, 3, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut s'humilier, soit pour la première fois accepter le Seigneur Jésus, ou tout simplement ramener son cœur à lui? Donc, 1, 2, 3, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un là. OK. C'est des décisions importantes, ça. C'est des décisions importantes. Et alors que je vais les inviter à venir me rejoindre devant, je vais vous inviter, vous, les autres dans la salle, s'il vous plaît, à bien vouloir vous lever. Et on va prier, on va terminer ensemble en priant. Amen. Alléluia. Pouvez-vous, oui, oui. Amen. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Ça demande beaucoup d'humilité, justement. Hein? Pour faire ce que vous avez fait. Et le Seigneur le voit, ça. OK? On ne s'inquiète pas de ce qui s'est passé. OK? Seigneur, regarde au cœur. Et ici, ce qui parle, là, c'est un cœur d'humilité. Un cœur qui veut se laisser forger. Un cœur qui veut le suivre, là. Donc, on va prier ensemble, tout le monde, ce matin. Amen. Et on va dire ensemble ce matin, Seigneur Jésus, je te remercie que tu as donné ta vie pour moi. Que tu as décidé de te dépouiller, de toi-même t'humilier, pour que moi, j'ai accès à cette vie éternelle. Donc, à notre tour, Seigneur, on vient devant toi. Nous nous humilions devant toi. Nous nous abaissons devant toi. Parce que nous avons confiance qu'au moment opportun, toi-même, tu sauras nous élever. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.